Cité Addict, votre rendez-vous santé sur Radio Cité Genève. Sophie Nicole, Gilles Miello.
Nouveau rendez-vous pour Cité Addict, nous allons parler des différentes substances. Bonjour Sophie Nicole.
Bonjour.
Directrice de la clinique Belmont et psychologue. Deux invités avec nous pour cette thématique ce matin, Ramiro Valdès, médecin alcoologue, bonjour.
Bonjour.
Et Yves Jomini, psychologue, bonjour.
Bonjour.
Les substances qui englobent beaucoup de produits, la cocaïne, toutes les drogues connues, héroïne, etc. Même le tabac, et oui, on est drogué quand on fume régulièrement. Ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais c'est tout de même le cas. Sophie Nicole, peut-être avant de développer cette thématique, rappeler un peu le béaba de toutes ces dépendances. On a traité beaucoup de thématiques jusqu'à présent, les dépendances alimentaires, les dépendances affectives et sexuelles, les dépendances aux substances. Qu'est-ce qui rend une personne dépendante d'un produit quel qu'il soit? Quel est le profil type du dépendant?
Alors en fait, il faut trois facteurs hein, pour développer une maladie de dépendance. Il y a le premier facteur qui est le facteur génétique. Ça veut dire que si effectivement dans sa famille, dans ses proches, grand-père, parents ou autres, il y a quelqu'un qui a développé une maladie de dépendance, c'est clair qu'on peut être plus fragile à en développer. On sait aujourd'hui qu'il y a des marqueurs sur le plan génétique qui permettent effectivement de dire, voilà, cette personne, elle va être plus sensible qu'une autre à développer une maladie de dépendance. C'est-à-dire que ses cellules, la plasticité de ses cellules sont plus fragiles et le terrain est facilitateur pour développer une maladie de dépendance à une substance. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le facteur neurochimique, c'est-à-dire que quand on n'est pas tous égaux dans la manière de sécréter certaines substances au niveau du cerveau. Et pour ces personnes-là, en fait, si elles ne sont pas diagnostiquées, si elles ne sont pas traitées, elles vont toutes seules chercher des solutions et donc c'est un risque de développer des maladies de dépendance. Donc, qui y a dans ce créneau-là? C'est les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, les personnes qui souffrent de troubles d'hyperactivité qui, si elles ne sont pas diagnostiquées, si elles ne sont pas aidées, accompagnées par des traitements, vont par elles-mêmes chercher à réguler cette affaire-là. Puis le troisième niveau, bah, c'est le facteur, ce qu'on appelle biopsychosocial, c'est-à-dire les événements de la vie qui font que, effectivement, selon les traumatismes ou les événements bouleversants et chahutants, bah, je vais essayer de me réparer, de me reconstruire et je vais utiliser des substances, des produits pour le faire.
Vous parliez d'un diagnostic précoce impératif pour tenter de déceler justement ces facteurs qui peuvent conduire à une dépendance. Comment on peut le déceler et à partir de quel âge concrètement?
Alors en fait, le simple fait déjà de savoir que dans sa famille, on a eu des proches qui ont développé une maladie de dépendance, ça va demander effectivement d'avoir une attitude et une conscience de ça déjà. Ça, c'est très important. Le fait aussi de savoir que dans ses proches, on peut avoir quelqu'un qui a des diagnostics d'hyperactivité ou de troubles bipolaires. Là aussi, c'est un terrain auquel il faudra s'intéresser.
Donc les enfants hyperactifs à surveiller de très très près, en gros, c'est ça?
Et bien, il faut savoir que 70% de ces enfants qui n'auront pas été diagnostiqués, qui n'auront pas été traités, vont développer une maladie de dépendance. 70%, c'est énorme.
Et comment on peut passer de l'hyperactivité, un enfant très tonique, à une dépendance ensuite au moment de l'adolescence ou de la jeune vie adulte?
Parce qu'en fait, le jeune va chercher à solutionner l'affaire et il va découvrir qu'effectivement, en fumant une clope, il arrive à mieux se concentrer, en fumant un joint aussi, en buvant un verre d'alcool aussi. Et puis, sans s'en rendre compte, en fait, assez naturellement, il va se mettre à s'appuyer là-dessus, en fait, et réaliser que, je me concentre beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair, je me sens normal, je me sens comme les autres, je suis plus agité, perturbé, j'arrive à commencer quelque chose et à le finir. Et effectivement, il faut savoir que dès que nous faisons quelque chose à la place de notre corps, notre corps, lui, va arrêter de le faire. Hein. Mais là, pour ces cas-là, c'est en fait donner la possibilité au corps de se mettre à un niveau qui, d'habitude, il ne connaît pas.
Alors, les substances, on a évoqué la cocaïne, l'héroïne, l'alcool aussi, bien évidemment, l'alcool qui concerne finalement un peu tout un chacun. Ramiro Valdès, on peut dire qu'on est alcoolique à partir de combien de verres par jour? C'est souvent un petit peu les questions que l'on peut voir. Quelqu'un qui boit un petit apéro de temps en temps, deux verres de vin par repas, est-ce qu'on peut déjà considérer un certain facteur d'alcoolisme?
Je ne pense pas qu'on puisse quantifier exactement un nombre de verres à partir duquel on est alcoolique. Mais en revanche, on sait que chez l'homme, à partir de 3 verres par jour, cette consommation est déjà dangereuse pour la santé. Chez une femme, 2 verres par jour. Pourquoi ces différences dans le sexe? C'est simplement parce que la femme n'a pas, contrairement à l'homme, une enzyme, c'est-à-dire un produit qui va détruire l'alcool dans l'estomac, qui s'appelle l'alcool déshydrogénase, que les hommes ils ont. Pour les mêmes quantités bues, l'homme il aura un foie un petit peu gras, un peu malade, la femme elle a déjà la cirrhose.
Alors justement concernant l'alcool, et là peut-être Yves Jomini pourra nous apporter un éclairage puisque vous êtes fils de vigneron, donc là au moins vous savez vraiment de quoi vous parlez. Concernant l'alcool, on a aussi beaucoup de préceptes médicaux qui nous disent boire un verre de vin, c'est également bon pour la santé, bon pour les artères. D'autres qui disent oh là là, surtout pas. C'est quoi le bon timing finalement?
Alors sur les artères, je laisserai mon collègue répondre. En revanche, je pense que l'alcool est un bon produit pour l'ensemble de la société. La majorité des gens en boivent occasionnellement en tous les cas. Et c'est un bon produit, hélas, pour toutes les personnes, ça a été dit, à qui ça se présente comme une solution à toutes sortes de mal-être.
Distinguer aussi peut-être le vin et les alcools dits forts aussi. Hein.
Je mettrai tous les alcools dans le même panier, si je
Donc
peux dire.
Donc on peut boire un verre de vin par repas, c'est bien pour la santé ou pas bien? Parce que trois verres par jour, si on commence à rentrer dans un degré, un facteur alcoolique, ça veut dire que la limite est vite atteinte quand même.
À mon avis, si vous buvez un verre de vin en mangeant de temps en temps, ça ne pose aucun problème. Si vous en buvez même de temps en temps un petit peu plus que ça, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le lien à l'alcool. C'est le lien à l'alcool. Et le lien à l'alcool est déjà problématique quand il est utilisé à la place d'autre chose, à la place d'un médicament pour s'apaiser ou à la place de quelque chose pour se mettre dans l'ambiance ou bien pour être tout simplement joyeux, heureux. Hein, c'est ce lien qu'il faut questionner à mon avis.
Ramiro Valdez, vous avez quelques chiffres justement concernant l'alcool en Suisse.
N'oublions pas que l'alcoolisme est une maladie sévère et grave en Suisse. Elle représente entre 5 et 7% de la population. Nous devons savoir qu'un tiers des alcooliques va mourir de leur alcoolisme, un tiers va à peine s'améliorer avec traitement, un autre tiers ne va pas changer et tôt ou tard va avoir les conséquences sévères de l'alcool. On disait tout à l'heure qu'un verre par repas est peut-être bénéfique pour la santé. Il y a des études faites par des cardiologues qui montrent qu'un verre de vin au repas, notamment avec un régime dit méditerranéen, c'est-à-dire riche en légumes, huile d'olive et autres, est bénéfique pour les artères, ou plutôt n'est pas délétère pour les artères. De là à dire qu'un verre par jour, à tous les repas, est très bon pour la santé, il y a un énorme pas que j'estime qu'il ne faut pas franchir. En fait, dans notre société, lorsqu'on parle d'un verre par jour en mangeant, on se réfère au même verre qui remplit une, deux et plusieurs autres fois. Et aussi, il ne faut pas oublier que chaque personne cherche à, quelque part, minimiser sa propre consommation. Sans le savoir, nous savons que la consommation d'alcool, elle tend à être banalisée. Mais aussi, n'est pas du tout quelque chose à minimiser d'une manière générale par la société.
Est-ce qu'on est tous dépendants finalement un peu à l'alcool, Sophie Nicole? Alors si on prend tous ces paramètres, beaucoup de personnes boivent un verre de vin par repas ou aiment bien le soir en rentrant après une journée un peu stressante, prendre un petit apéro ou un verre de vin avec ce sentiment de se dire « ça me soulage ». On peut à ce moment-là parler aussi un peu de dépendance à condition que cela se répète chaque jour évidemment.
Je crois que tu viens de donner la réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la relation à la substance. Effectivement, si chaque fois que je rentre du boulot le soir, après une journée stressante, il faut que je prenne mon petit apéro, sinon ma soirée ne va pas être pareille, ben oui, là, je pense qu'il faut se poser une sérieuse question, parce que ça veut dire qu'on investit son apéro comme on investit un médicament, en fait. Et on attend de prendre sa dose pour pouvoir passer une bonne soirée. Là, effectivement, petit souci.
Avec... Souvent aussi l'alcool qui se lie à la cigarette. La cigarette aussi, le tabac qui est une grande, grande dépendance avec tout un tas de substances dans les cigarettes ajoutées par les grandes firmes, avec même certaines substances liées au chocolat pour inciter le cerveau à revenir vers le produit. Enfin, c'est encore beaucoup plus vicieux que d'autres substances, peut-être un peu moins travaillées. Sur le tabac, la cigarette, là aussi, on peut véritablement parler de dépendance, de drogue même carrément. Yves Jomini ?
Ah oui, bien sûr, on a tous les signes de la dépendance avec la cigarette, qui sont les mêmes signes que ceux qu'on rencontre avec les autres produits, hein, si on parle stricto sensu de dépendance. Hein. L'obsession, la poursuite de la consommation, malgré le fait qu'on connaisse très bien les risques aujourd'hui, hein, la capacité de parcourir pour certains des kilomètres pour aller chercher un paquet de...
Ou faire tous les cendriers pour trouver
un bout de mégot qui traîne. Les signes de manque quand on est privé, donc on retrouve les mêmes signes de dépendance qu'avec les produits psychotropes.
Et notamment les produits beaucoup plus durs. Hein.
Les produits beaucoup plus durs et les comportements type achat compulsif ou type dépendance affective ou sexuelle, par exemple.
cocaïne, héroïne, Sophie Nicole, par rapport au tabac, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement quelque chose de différent? Souvent, celles et ceux qui fument quotidiennement se disent « Non, non, je ne tomberai jamais là-dedans, dans les pétards, les joints, etc. » Peut-être après l'héroïne, la cocaïne. Est-ce que c'est un schéma un peu trop facile, un raccourci trop facile, ou est-ce que c'est le même monde, finalement?
Non, c'est un schéma et un raccourci. Effectivement, on peut être accro au tabac et on restera accro au tabac toute sa vie, puis il n'y aura pas d'autres dépendances. De nouveau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la relation avec la substance. Alors voilà, les gens qui sont accro au tabac vont utiliser une clope pour se détendre, pour se calmer, aussi pour donner la dose au corps parce que le corps le demande. Aussi, à des moments donnés, quand ils doivent dire des choses très importantes ou quand ils viennent de vivre quelque chose d'éprouvant émotionnellement, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à des drogues dures. Il y a des gens qui sont capables effectivement de consommer une ou deux cigarettes et puis de ne plus fumer pendant 10 jours et puis de consommer 5 cigarettes et puis de plus fumer pendant 1 mois. La même chose pour l'alcool. Il y a des tas de gens qui boivent de temps en temps de l'alcool, parfois qui abusent un soir de l'alcool. Ça ne fait pas d'eux des alcooliques. Il y a des gens qui fument des joints de temps en temps, un joint par là ou un joint par là, et puis ça ne change pas leur vie. La problématique, c'est pas la substance en fait en elle-même, c'est le rapport à la substance en fait. Si je prends la cocaïne, ben voilà, dans les pays où elle est produite, elle était utilisée comme un médicament, elle était utilisée pour couper la faim, elle était utilisée pour permettre un plus grand effort physique. Et en même temps, le seul souci, c'est est-ce que quand j'arrête, est-ce que je peux faire le même travail ou est-ce que je me sens pas capable? La cocaïne, c'est chez nous pris pour des moments très récréatifs. Et le seul souci, c'est qu'après, il y a le sentiment que je ne vais pas pouvoir m'éclater si j'en prends pas. Je ne vais pas pouvoir être aussi cool si je n'en prends pas. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des tas de manières différentes de consommer ces substances. Et ça, les choses ont beaucoup, beaucoup changé sur ce niveau-là. Pendant très longtemps, c'était dans certains milieux de la société, c'était très chic de sniffer une ligne de coke comme ça. Ça faisait très branché dans des soirées. Aujourd'hui, la cocaïne se fume. Aujourd'hui, la cocaïne s'injecte. On n'est plus du tout dans le même monde. On n'est plus du tout dans la même réalité. Et c'est plus drôle du tout.
Et c'est beaucoup plus accessible puisque les prix ont considérablement baissé aussi ces 20 dernières années. Je vous propose justement d'écouter le témoignage de Pedro, 26 ans, accro à la cocaïne. Il nous raconte un peu son parcours.
J'ai commencé pour le produit cocaïne. J'avais environ 16 ans et j'étais consommateur pendant 6 mois. Et puis voilà, j'ai eu peur, j'ai commencé à avoir d'énormes différences dans mon corps.
Qu'est-ce qui fait qu'on commence à consommer de la cocaïne à 16 ans?
C'est les amis, le quartier aussi. Il y avait partout des gens qui prenaient des drogues. Et moi, je pense que ça m'étonne que je n'ai jamais pris avant, parce qu'il y a des gamins qui commencent plus tôt, quoi. C'est une adrénaline qu'on ne peut pas avoir sans la drogue. C'est impossible. On commence à avoir des amis dans ce milieu, et puis les gens qui sont pas dans ce milieu, ils s'éloignent et on se rend pas du compte, mais c'est comme ça. J'ai commencé à avoir peur, j'ai perdu pas mal de poids, j'ai perdu environ 10 kilos en 6 mois, c'est énorme. Bon, ma femme, elle était enceinte, et voilà, ma fille, elle est née, et j'ai commencé à réfléchir. Ouais, mais c'est fort. Il y a des gens qui ça le fait rien. Ils ont des enfants et puis ils pensent pas, comme mes parents, par exemple. Ouais, j'étais tellement mal. Et puis je partageais un appart avec quelqu'un qui consommait tout le temps. Et moi, je savais ce que c'était. Même comme ça, au bout de 15 jours de vivre avec lui, je commençais à fumer pour m'endormir, pour oublier le problème. Je n'ai pas fumé tous les jours, j'ai commencé pour fumer une fois par semaine, après deux fois par semaine, après les week-ends. Après, voilà, j'ai commencé à fumer un peu tous les jours, et quand ça arrive, on devient accro en 3-4 semaines. Parce qu'après, c'est pas le manque physique, mais le psychologique, il est déjà là, et puis le physique, il vient tout de suite après. Après, c'est impossible, même si on veut arrêter psychologiquement. Après, on est accro physiquement, on a le manque horrible, quoi. C'est trop dur, c'est presque impossible d'arrêter tout seul.
Voilà, Sophie Nicole, on l'a vu, un Pedro, 26 ans, ce témoignage accro à la coke, il en vient à voler pour pouvoir ensuite s'acheter sa substance. Là, on peut vraiment parler de pathologie. Et est-ce que là, il peut, lui, s'en sortir, faire machine arrière, là ? Comment ?
Alors, ce qui est très intéressant dans ce qu'il dit, c'est que voilà, il a commencé à l'âge de 16 ans avec la cocaïne, pendant 6 mois, il le dit bien, il a réussi à s'arrêter, parce que tout d'un coup, pouf, il réalise, un, qu'il perd du poids de manière très rapide, il perd ses cheveux, enfin... Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait les ressources qu'il a développées pour être capable de mettre en place son abstinence à ce moment-là. Et puis effectivement, de nouveau, ça ne va pas bien dans sa vie, comme il l'explique bien. Et là, pouf, c'est la porte ouverte à la prise d'héroïne et à nouveau de la cocaïne. Et puis, comme il le dit bien, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a un métier, c'est quelqu'un qui a une position sociale, il est marié, il a des enfants et il raconte bien sa descente en enfer. C'est très impressionnant de réaliser effectivement, comme il l'explique, à quel point on ne se reconnaît plus, on est capable de faire des passages à là complètement incroyable parce que tout d'un coup voilà, il n'y a plus que le produit, le corps en a besoin, ma réalité c'est ça et c'est plus que ça.
Yves Jomini, que l'on comprenne bien encore une fois le processus de guérison quand on est accro comme ça à une substance et que ça prend des proportions quasiment irréversibles, comment s'en sortir sans retomber dans une autre dépendance? Il faut réhabituer à la fois le corps et le cerveau.
Il faut réhabituer le corps et il faut on sait assez bien faire des sevrages physiques de produits. Ensuite, il faut réhabituer l'esprit, en quelque sorte, à fonctionner avec d'autres solutions que les produits ou les comportements.
Donc, et comment compenser les sensations obtenues quand on était dépendant à une substance et comment les pallier sans mettre en jeu la santé ?
Jamais on les compensera pas. C'est-à-dire, on va essayer de donner des idées de solutions nouvelles aux patients qui veulent s'en sortir, tout en leur disant bien que jamais ils n'auront la sensation du shoot d'héroïne, hein, du flash par exemple. Hein. Donc le plaisir va s'obtenir de façon moins massive, mais de façon plus différenciée. Les techniques d'apaisement vont être des techniques qui n'ont pas l'effet du pétard ou des 4 ou 5 whisky, mais elles vont apaiser quand même, mais différemment, de façon moins massive justement. Donc c'est tout un apprentissage à la fois comportemental, mais aussi cognitif.
Hein. Sophie Nicole.
C'est tout un travail sur la tolérance émotionnelle, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment que, pour me calmer, pour me détendre, pour me désinhiber, pour me rendre joyeuse, j'utilise une substance, c'est tout un travail que je ne fais plus à l'intérieur. Je m'appuie sur une béquille à l'extérieur. Donc c'est tout un travail thérapeutique pour réconcilier la personne dans la relation qu'elle a, elle, avec elle-même, en fait, et réussir à réaugmenter sa tolérance émotionnelle. C'est-à-dire, finalement, quand ça va pas, qu'est-ce que je peux faire avec moi et comment je peux m'accompagner, comment je peux me soutenir, plutôt que de remettre dans les mains du produit X ma solution, en fait.
Mais comment réhabituer le cerveau à se passer de quelque chose qui, en fait... induit aussi et pallie un manque de substances, on l'évoquait tout à l'heure. Il y a aussi ce facteur un peu génétique, le cerveau qui ne donne pas suffisamment ces substances qui apaisent le corps et que l'on va rechercher dans des produits extérieurs. Là, il y a un phénomène clinique aussi.
Alors, Nicole, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la période de sevrage est assez longue, hein, puisque le sevrage physique peut se passer très vite, 5 jours, hein, pour l'alcool ou pour la cigarette, selon le degré de dépendance. Pour d'autres substances, ça va être des paliers qui vont être un peu plus lents. Néanmoins, une fois que vous êtes arrivé à zéro, là, il faut compter 3 mois. 3 mois pour que neurochimiquement, votre cerveau se remette en place. 2 ans pour tout récupérer. Donc effectivement, il va falloir vous accompagner comme on accompagne un convalescent. Et effectivement, il faut savoir que dans un premier temps, comme on va frustrer nos systèmes, on va avoir pas mal de déplaisir. Effectivement, si je veux aujourd'hui apprendre à faire du piano, je vais devoir faire des gammes, et c'est pas très plaisant de faire des gammes, mais c'est comme ça que je pourrais jouer du piano. C'est la même chose, c'est la même rééducation pour une personne dépendante à une substance, et effectivement, on va passer par une période de déplaisir.
De dépression même un peu, carrément, non ?
Absolument, tout à fait.
De dépression, et puis ensuite, il faut apprendre aussi à se reconstruire, c'est donc un travail de longue haleine.
Absolument, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines personnes.
Yves Jomini.
Alors pendant cette période, la personne va apprendre d'autres comportements. Elle va apprendre à s'apaiser autrement en utilisant des techniques de méditation, de relaxation, de gestion du stress. Elle va apprendre à gérer ses émotions autrement. Elle va apprendre à fonctionner autrement avec les autres. Par exemple, si vous vous sentez mal, si vous êtes déprimé, vous pouvez le garder pour vous et puis au bout d'un moment boire un verre. On va lui apprendre à aller s'ouvrir aux autres, à parler de ce qu'elle ressent, à essayer de chercher des autres solutions, des solutions avec les autres, à se mettre en position de résolution de problèmes. Donc tout ça, c'est un apprentissage comportemental. Et puis elle va faire un apprentissage cognitif. Elle va apprendre à se percevoir aussi différemment. Pendant toute cette période, c'est le sens de nos traitements qui durent plusieurs mois en établissement, mais aussi ensuite en prise en charge individuelle.
La dépendance à l'alcool, le témoignage d'Eva, 35 ans, dépendante à l'alcool. Elle a commencé tôt, à 15 ans, comme beaucoup, au collège. Elle commençait à sortir, elle a commencé à prendre quelques verres et puis c'est allé en s'accélérant. Elle est, elle, carrément tombée dans les calmants. Après, donc, un mélange un peu détonnant. Eva, 35 ans.
Tout d'abord, ça commence par des sorties entre amis, au collège, normal, s'amuser, festif pour rire. Faire les... Ouais, quand les parents sont pas là, les week-ends, inviter des gens. Mais aussi se rendre compte assez vite que j'étais toujours celle qui buvait un peu plus. Celle qui buvait toujours le dernier verre. Celle qui... Ouais, qui poussait un peu plus loin que les autres, quoi. Mais c'était... Quoi, c'était les premières sorties vers 15 ans. Ado, c'était rien, quoi. C'était être comme tout le monde, c'était faire la fête, c'était social. C'est maintenant avec du recul que je me rendais compte que ça m'allait très très bien. On croit qu'on est cool, en fait on doit être bien nul avec le mascara qui coule sur la joue, mais sur le coup on croit qu'on est bien, ouais. Et puis après, c'est une autre étape, c'est-à-dire qu'on a dépassé 20 ans, l'alcool devient un peu différent, ça veut dire qu'il y en a qui se casent, il y en a qui sont en couple. Moi j'enchaînais plutôt des histoires, après quelques histoires stables, des histoires un peu moins stables. Je me rendais compte que l'alcool était différent, que je buvais plus, j'avais un job ultra stressant, que je commençais à boire trop, que mes amis me disaient que quand je buvais, je tournais mes trucs en boucle, je répétais la même chose, je sortais pas de mon cercle vicieux dans l'alcool. Les comportements s'aggravaient, c'est-à-dire que je buvais avant de partir une soirée seule, quand je rentrais et que j'estimais que j'avais pas assez bu, je buvais seule après. Petit à petit, c'était une sorte de cercle vicieux qui est devenu hyper malsain. Et je dirais les 4 dernières années est devenu catastrophique, avec spécialement l'année 2011 qui est devenue ultra grave. Pour moi, j'ai toujours l'image qu'un pote m'avait expliqué, l'image de l'escalier. Ça veut dire que je crois qu'on chute marche après marche. On ne se rend pas compte, surtout on ne veut pas voir. Parce que déjà, c'est toujours les autres les pires, parce qu'on a toujours cette image de dignité. Donc... On a toujours l'image du poivreau dans la rue, quoi. Alors on se dit que ben on a encore un job, ben, finalement notre visage il est pas si abîmé que ça, que ben il y en a qui boivent dès le matin à 8h, et ben nous on boit dès 17h. Puis petit à petit on se rend compte que tiens quoi, c'est samedi, il fait beau, finalement l'apéro on le prend pas à 17h mais à 15h. Ouais mais bon c'est pas grave, il faisait beau donc ça va. Et puis tout d'un coup on se rend compte que on se rappelle plus de ce qu'on a fait la veille, ou ben encore plus flippant. On se réveille avec un inconnu dans son lit, ou bizarre, c'est nos amis qui nous appellent et qui reconstituent notre soirée à nos places. Et tout d'un coup, fin 2011, ça en vient où des amis nous disent des trucs qu'on comprend même plus, du style. Ils n'arrivent pas à nous joindre pendant plusieurs jours, et on entend une voix hyper angoissée à l'autre bout du fil qui nous dit « Waouh, t'es vivante, j'ai plus de nouvelles de toi depuis 3 jours, ben, j'ai cru que t'étais morte ».
Ramiro Valdez, on le voit dans ce témoignage d'Eva, ça commence par une substance, ça se termine, ou en tout cas ça se poursuit avec une autre, l'accumulation aussi, d'essayer de trouver une solution.
Ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent, notamment chez la personne alcoolique, c'est que lorsqu'elle va chercher un traitement, elle va chez son médecin, lui demande de l'aide. Ce médecin, parfois sans le comprendre, sans suffisamment accompagner son patient, va lui donner classiquement des calmants pour l'aider à se désintoxiquer d'alcool. Effectivement, une désintoxication d'alcool ne prend que 5 jours. 5 jours de suite, sans boire de l'alcool, le corps ne réclame plus. On est désintoxiqué.
Qu'est-ce qui fait que le corps ne réclame plus de l'alcool, alors que pour la nicotine, la cigarette, c'est beaucoup plus compliqué?
Chaque substance a sa période quelque part de sevrage, où le cerveau arrive à récupérer physiquement. Pour l'alcool, c'est 5 jours, la nicotine, un petit peu plus. Pour les opiacés, donc l'héroïne et méthadone et autres, c'est entre 8 et 12 jours. La cocaïne, c'est un petit peu plus long. Parfois, on voit des moments de craving, de besoin de consommer de la cocaïne jusqu'à 9 mois après l'arrêt. Chaque substance a sa période de sevrage. Le grand problème avec l'alcool et les médicaments, les tranquillisants, les fameux benzodiazépines, comme on les appelle, c'est qu'on utilise ces mêmes benzodiazépines pour se désintoxiquer d'alcool. des produits très connus comme le Seresta, le Xanax, le Lixotanil sont régulièrement prescrits par les médecins pour se désintoxiquer d'alcool. Et malheureusement, ce qui arrive très souvent, c'est que la personne alcoolique va se désintoxiquer 3-4 jours, ne pas être complètement désintoxiquée, reconsommer de l'alcool tout en continuant les bons oenésépines et rapidement devenir dépendant, accro à l'alcool toujours et de nouveau maintenant aux bons oenésépines. À partir de 3 semaines en consommation continue des benzodiazépines quotidiennes, même à petite quantité, on est déjà dépendant physiquement. Et voilà, des patients comme Eva, après quelques années, on la retrouve extrêmement dépendante des benzodiazépines et de l'alcool, extrêmement difficile à soigner en ambulatoire. C'est une personne qui absolument doit, et heureusement c'est le cas, être hospitalisée pour faire une désintoxication de longue durée.
Sophie Nicole, donc au niveau des traitements, évidemment, le suivi est important. Un médecin qui donne une ordonnance et qui ne suit pas forcément le patient, ce n'est pas non plus la panacée.
Oui, malheureusement, on a ce grand souci actuellement. Il y a encore une trop grosse facilité à prescrire ces fameuses benzodiazépines. Et puis, je pense aussi à un manque d'information auprès du patient. Ça ne doit pas se prendre plus de 3 semaines. Et ce n'est pas une vraie solution. C'est une solution temporaire. Il y a une vraie réalité émotionnelle et la personne elle a besoin d'un vrai soutien. Et le médicament ne répare rien. Ce n'est qu'une béquille. Ça ne répare rien.
Un dernier mot peut-être en guise de conclusion concernant notamment le tabac, puisque ça touche peut-être le plus de monde, la nicotine. Quand on essaie d'arrêter, souvent les gens se disent « si j'arrête, j'ai peur de prendre du poids ». Est-ce que c'est uniquement lié à l'arrêt de la substance ou est-ce que c'est un palliatif? En fait, on arrête de fumer, mais on a besoin de retrouver ce petit quelque chose. Donc on va se mettre à grignoter ou à changer son comportement alimentaire. C'est ça aussi qui fait qu'il y a éventuellement une prise de poids?
Non.
Sophie Nicole.
C'est vrai. Arrêter de fumer, ça va faire prendre du poids. Pourquoi ? Parce que 10 cigarettes, c'est 700 calories grillées. Donc effectivement, quelqu'un qui arrête de fumer, il y a le risque effectivement qu'il se mette à grignoter, mais il y a aussi une vraie réalité, l'organisme ne va pas stocker de la même manière dans la première période. Et effectivement, il faudra que les gens soient assez attentifs à ça. Ce que je trouve qui est très important à dire par rapport aux dépendances aux substances, c'est que même si quelqu'un est abstinent, il faut savoir que cette mémoire de la maladie va rester dans son cerveau et qu'elle ne pourra jamais être réconciliée avec la substance, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais redevenir un consommateur normal, un consommateur pas abusif. Parce que dès qu'elle retouchera la substance, immédiatement cette mémoire de dépendance s'ouvrira. Et c'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, arrête le tabac, qui fumait un paquet, et qui recraque et qui se remet à fumer, il passe très vite à un paquet et demi, voire 2 paquets. Donc chaque fois qu'on arrête, il faut réussir à tenir dans une abstinence totale. Parce que sinon, moi, la plus longue abstinence que je connais, c'est un patient qui était alcoolique, qui était abstinent depuis 36 ans d'alcool, et sa femme est décédée, très triste, profondément bouleversée. Il boit un verre d'alcool. En une semaine, il s'est retrouvé à la même dose d'alcool que 36 ans en arrière. Donc cette mémoire-là, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est pour ça que c'est une maladie. C'est pour ça qu'effectivement, on peut devenir un abstinent heureux, mais on ne pourra jamais redevenir un consommateur normal.
Les dépendances aux substances, vous pouvez réentendre cette émission sur notre site internet www.radiocité.ch, la page Cité Addict. Merci à Sophie Nicole, merci à Ramiro Valdès et à Yves Jomini. Dans un instant, le Flash Info de Cléa Favre.
Cité Addict.